La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Hajar Bali pour un premier roman, Écorce, qui paraît en France chez Belfond et en Algérie chez Balzac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Hajar Bali, c'est un très beau roman sur la transmission et la mémoire, un livre sur le dialogue entre les générations. Le héros du livre est un étudiant en mathématiques de 23 ans, un héros, en tout cas, on pourrait dire le personnage central. Mmh. Il vit à Alger avec trois femmes, son arrière-grand-mère Baya, sa grand-mère Fatima et sa mère Meryem. Quatre générations sous le même toit et petit à petit, des secrets de famille se dévoilent. Il est aussi question de vengeance. Tous les membres de la famille sont importants dans le livre. Ils ont tous une histoire qui leur est propre. Comment est né ce livre, Hajar Bali ?
Eh bien, au départ, j'étais partie pour écrire des nouvelles. Donc, il y en a eu quelques-unes que j'ai écrites, des petits bouts, des bribes de texte. Petit à petit, j'ai réalisé que je pouvais les regrouper. Je trouvais le lien qui se faisait entre les personnages. Et voilà. Et donc, ça commençait à prendre de l'ampleur, quasiment malgré moi, parce que j'avais quand même une grosse peur du roman. Mais voilà, il y a à peu près maintenant 2 ans, j'ai pu écrire cette structure et me lancer véritablement dans l'écriture du roman.
Alors, Nour était étudiant en mathématiques. Il est né en 1993, dans cette période qui a beaucoup marqué les Algériens, ce qu'on a appelé les années noires. Mmh. Pour plaisanter, il dit que ces trois femmes qui le couvrent sont ses trois mères.
Oui.
Il est le seul homme de la famille. On expliquera peut-être pourquoi tout à l'heure. À un moment de sa vie, il veut vivre pour lui. Il est étouffé par ces trois femmes. Il veut s'émanciper.
C'est ce qu'il dit, mais sans vraiment comprendre ce que signifie de dire qu'il veut vivre pour lui. Il veut effectivement s'émanciper, mais en même temps, il est dans une reconnaissance, dans un amour très fort pour ces trois femmes, dont il connaît l'histoire, dont il connaît les traumatismes, la vie. Donc voilà, il est partagé entre ce désir de s'émanciper de cet amour trop fort qui l'étouffe. Et celui de continuer à aimer, c'est-à-dire comment on peut continuer à, en fait la question c'est celle-là, comment on peut continuer à aimer et tout en acceptant la confrontation avec les êtres qu'on aime.
Alors un personnage très attachant dans ce livre, c'est Baya. Elle a 95 ans, c'est l'arrière-grand-mère. Elle a connu la colonisation, elle vient d'un petit village où poussait un figuier auquel elle était très attachée. Elle a été mariée à 14 ans, elle a été répudiée, elle s'est enfuie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur elle ?
Elle a commencé à se construire à 14 ans. En fait, à 14 ans, c'était encore une enfant, une jeune adolescente. Et il a fallu, à ce moment-là, quand elle a été répudiée, elle avait déjà un enfant. Après son mariage, je veux dire, une année après, il y a l'enfant qui naît, Haroun. Elle est répudiée. Et c'est un peu son premier grand amour, quoi, cet enfant, et dont elle n'aura de cesse que d'essayer de le récupérer. Donc elle va préparer donc l'enlèvement de ce petit, et voilà, commence pour elle une grande aventure puisqu'elle va voyager elle va fuir avec cet enfant et fonder, on va dire, un petit peu sa petite dynastie, quoi, sa famille. Et on va la suivre on va suivre son récit tout le long, puisqu'elle y revient tout le temps, et suivre aussi la construction de cette famille et de son histoire.
Que symbolise le figuier, Hajar Bali ?
Le figuier, c'est un personnage lui-même, il me semble, du roman. Pour moi, il est la racine. C'est un arbre présent, très vieux, qui signifierait peut-être l'enracinement. C'est-à-dire, c'est vers ce figuier, vers cet arbre qu'on sent très vieux, présent, témoin, silencieux, que vont s'accrocher les personnages, y compris une jeune Mouna qui cherche justement ses racines. Donc il est un peu ce vers quoi vont se retourner ou s'accrocher tous les personnages.
Hajar Bali, c'est un roman où l'on traverse les époques, les années 2000, les années 30, les années 50, des époques charnières pour l'Algérie, mais aussi pour les personnages. Les années 50 nous renvoient bien sûr à la guerre d'indépendance et son lot d'exactions, d'arrestations. Vous évoquez notamment la Maison Carrée, célèbre prison coloniale. Oui. La colonisation et la guerre, ce sont quelques-unes des blessures de cette famille.
Absolument, oui. Oui, ce sont des traumatismes comme même avant la guerre, je veux dire, les événements de 1945. Voilà, et puis, de toute façon, toute leur histoire est jalonnée d'événements et de moments de grande violence, y compris celles des années 90, quoi. Donc,
alors, le prénom Nour du personnage principal, c'est évidemment une référence à la lumière.
Oui.
C'est aussi une référence à la lumière que voit Haroun avant de mourir, qui est donc le fils de Baya. Il voit la lumière avant de mourir, une maladie qu'il a attrapée en prison.
Oui. En fait, cette lumière, c'est cette chose que cherchent en réalité tous les personnages. C'est libération réelle ou cette possibilité d'accéder vers quelque chose de nouveau, qui n'arrive pas réellement à définir, mais qui va être leur raison de se battre ou de lutter.
Et Nour est un petit peu le rayon de lumière de ces trois femmes qui sont cloîtrées dans leur petit appartement d'Alger.
Absolument, il est. Oui, absolument, c'est ça.
Alors, parmi les sujets que vous évoquez dans ce roman, il y a notamment les privilèges qui étaient accordés aux anciens moudjahides après l'indépendance. Haroun, le fils de Baya, qui a combattu pour l'indépendance, refuse tous les avantages qu'il pourrait obtenir. Mm-hmm. Je vais lire un court extrait qui le concerne. Mm-hmm. Il a dit « Je n'ai pas pris les armes pour ça ». Il a dit « J'ai voulu libérer mon pays, c'est mon devoir, on est comme ça, nous, c'est pour ça que tout le monde reconnaît qu'on est de vrais patriotes. Dans ma famille, continue Myriam, on est resté certes pauvre, dépouillé, mais on est fier. » Ce qui caractérise cette famille, notamment, c'est l'intégrité.
Je dirais pas tout à fait. En fait, et les personnages du roman trichent parfois. Ils mentent sur leur histoire.
Ils sont ambivalents.
Ils manipulent. Oui, ils sont ambivalents. Et je crois que c'est une réalité que le narrateur, en tout cas, ne veut pas cacher, puisqu'il fuine, il est tout le temps en train de fouiller dans les voies intérieures, dans les pensées des personnages. On sent bien que tout n'est pas aussi clair ni aussi évident. Oui.
Dans cette saga familiale, il y a des drames. Oui. Je pense en particulier à l'incarcération du père de Nour, Kamel, un menuisier accusé de terrorisme, et qui mourra en prison. Je suis désolé de révéler un peu l'intrigue du roman, mais il faut bien comprendre. Mm-hmm. Chaque 5 juillet, la famille espérait qu'il serait gracié. Mm-hmm. Comment il se retrouve en prison ?
Tout à fait par hasard, en fait, finalement. Ce sont les personnages sont comme des faux héros, y compris donc Haroun, lorsqu'il se retrouve pris en prison, emmené en prison pendant la guerre de libération, enfin pendant la guerre d'indépendance. Il est emprisonné presque au début de la guerre et n'est libéré qu'à la fin. Enfin, il se retrouve en prison, mais sans avoir vraiment, sans avoir pris les armes véritablement. Quant à Kamel, donc pendant la période terroriste, il est arrêté. On peut raconter, peut-être, j'en sais rien.
Tout à fait.
Mais donc il y a des amis à lui qui lui laissent une arme dans sa menuiserie sans qu'il le sache. Et après, on lui demande de la récupérer et se fait arrêter avec l'arme entre lui, enfin, dans sa poche. Donc, voilà. Et il est mis en prison, oublié en prison, comme on oublie beaucoup les pauvres gens, quoi, finalement.
Et c'est la raison pour laquelle son fils se retrouve le seul homme de la famille.
Voilà, il se retrouve tout seul. Bon, il n'y a plus papa, il n'y a plus... Le grand-père est décédé déjà et voilà. Donc, il est tout seul avec ses trois femmes.
Alors, ce jeune étudiant, Nour, est très solitaire. Il fait la connaissance d'une femme plus âgée que lui, qui s'appelle Mouna. Le lecteur comprend peu à peu que cette rencontre ne doit rien au hasard, qu'elle a été provoquée par Mouna, qui connaît le passé du père de Nour. Je ne vais pas dévoiler l'intrigue, mais ce personnage Mouna est très ambivalent. On ne sait pas si c'est une victime ou bien une personne dont il faudrait se méfier. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire la connaissance de ce personnage mystérieux?
Eh bien, Mouna a hérité, comme tous les personnages en fait du roman, du passé et de l'histoire et des traumatismes de sa mère, particulièrement sa mère, celle-là. Et en fait, je la vois comme un témoin, comme un témoin d'une certaine période de cette période des années 2010 et autres, 2000 et 2010. Puisque avec sa mère, elle est un peu la mère de sa maman, puisque sa maman est partie complètement dans un délire, dans un amour infini pour un homme qu'elle a perdu, qui est parti, et elle en oublie son enfant, quoi. Et cette petite va essayer de récupérer l'histoire de cette mère, va essayer d'enquêter et de prendre en charge la parole même de cette mère qui ne sait pas s'exprimer véritablement en usant de la musique. Et donc Mouna va essayer de décrypter l'histoire de cette mère et d'essayer de se raccrocher elle aussi au figuier, d'une certaine façon.
Alors la narration est très éclatée, non seulement parce qu'on passe d'une époque à l'autre, mais aussi parce qu'on pénètre dans les pensées et les secrets des personnages. On voit littéralement jaillir les pensées. Est-ce que vous êtes une lectrice de Virginia Woolf, par exemple, avec le flux de conscience des personnages?
Oui, j'adore l'écriture de Virginia Woolf, et vous êtes la deuxième personne à me le dire. Ça m'honore vraiment d'être comparée, en tout cas de ce point de vue-là, à cette grande écrivaine. Oui, c'est possible, et c'est fort certain qu'il y ait une influence avec de l'écriture de Virginia Woolf que je lis assidûment, quoi, que j'ai lu assidûment.
Il était important d'avoir cette forme-là pour ce roman-là.
Oui, parce que je travaille également sur le langage. Et pour moi, en fait, et aussi en tant que mathématicienne, on apprend dans les mathématiques que la ligne droite, dans la physique et dans les mathématiques, que la ligne droite en réalité n'existe pas. C'est une abstraction en fait. C'est plutôt les courbes comme la pensée. C'est-à-dire que toute pensée directe qui est en fait, on organise la littérature ou la société autour d'un langage qui se veut cohérent, droit, direct, mais qui ne correspond pas, de mon point de vue, à toutes les sinuosités d'une pensée. Et c'est pour ça que ce roman cherche, en fait, à faire découvrir toutes les possibilités de langage qu'on n'a pas encore fouillées, d'où le désir de désaxiomatiser, on va dire, la vie.
Alors là, vous utilisez des termes qui sont très compliqués pour moi, mais vous faites la transition avec la question que j'allais vous poser à Jarbali. Vous avez enseigné les mathématiques. Quelle est la place des mathématiques dans ce roman? Car elles ont une place importante.
Oui, je disais tout à l'heure donc cette question de la ligne droite, mais aussi les mathématiques sont pour moi... j'ai longtemps enseigné la logique, c'est un cours que j'aimais beaucoup enseigner. Et donc, comment faire que dans un raisonnement logique et qui ne soit pas cohérent parce que ce n'est pas la ligne à suivre dans une pensée qui se veut proche du réel et critique, parce qu'en mathématiques on apprend également à avoir un regard critique, à se méfier de l'intuition. Donc tous ces ingrédients là, je m'en sers pour apporter dans le roman à la fois l'aspect très complexe de la pensée et des personnages, et également pour les faire se rencontrer, parce qu'en fait il n'y a pas de ligne parallèle, il n'y a que des croisements possibles. Voilà, je suis en train de cheminer tout en vous disant ça vers ce à quoi je vais arriver.
Alors, à Jarbali, j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur ce beau titre, Écorce au pluriel. Alors, J'y vois évidemment une référence au figuier de Baïa.
Oui.
Mais il y a peut-être aussi les différentes strates qui composent le tronc d'un arbre. Mmh. L'arbre, c'est la référence peut-être à l'arbre de Jessé qu'on voit notamment dans la Bible.
Oui, oui, tout à fait. Les écorces sont des enveloppes qui parfois se renouvellent, mais en tout cas, elles enveloppent, donc au sens premier du terme, donc elles peuvent aussi couvrir des choses, d'où les secrets, les non-dits, et elles peuvent aussi éclater, être fissurées, et elles peuvent faire découvrir en dessous une multitude de vers, donc c'est-à-dire une autre vie, une vie cachée qui finit nécessairement par jaillir, quoi. D'où justement toutes ces pensées, toutes ces choses, on va dire, même involontaires, ces mots, ces paroles involontaires qui peuvent surgir parce que elles sont tellement confinées dans le cerveau, on a tellement voulu les caser, les cadrer, qu'à un moment elles vont éclater, que c'est comme une marmite qui va finir par c'est ce que porte pour moi, ce que signifie pour moi toutes ces écorces.
Hajar Bali, c'est votre premier roman, mais ça n'est pas votre premier livre. Vous écrivez depuis longtemps des pièces de théâtre, des nouvelles déjà publiées. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à passer au roman? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au départ, vous aviez plutôt l'intention d'écrire des nouvelles.
Oui, c'est l'envergure que prenait le récit que j'avais commencé à écrire il y a 3 ans maintenant. Et c'était les personnages qui se multipliaient, l'histoire aussi, les événements historiques qui s'allongeaient. Et du coup, ça m'a paru évident qu'il fallait lier tout ça en un roman pour être en mesure de rendre compte de tout, de 100 ans finalement de l'histoire de l'Algérie.
Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on a terminé un roman, que le livre est là?
C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre l'avoir terminé, en fait. J'ai dû mettre un point final, mais il me semble que ce roman pourrait encore continuer. Peut-être parce qu'il aurait fallu, à partir de ce moment-là, rentrer dans la période d'aujourd'hui qui allait me prendre peut-être un autre roman, quoi. Je veux dire, qui allait être très dense et très riche. Peut-être que je le pressentais déjà, je ne sais pas.
Peut-être aussi parce que la période que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être pas la fin d'un cycle, on est peut-être au début ou au milieu du cycle.
Absolument. Et donc, il me semble que ce roman, quelque part, enfin, en tout cas pour moi, annonce justement une fin de quelque chose et un début de cette nouvelle période que nous vivons, en tout cas en Algérie, mais aussi dans plusieurs autres régions du monde. Hein. En tout cas, pour l'Algérie, c'est clair que le mouvement qui est la révolution qui est née le 22 février 2019 a bouleversé beaucoup de choses et a montré enfin une génération qui avait décidé de prendre en charge son destin.
Merci Hajar Bali, je renvoie nos auditeurs à ce très beau roman, un premier roman écorce qui paraît en France chez Belfond et en Algérie aux éditions Balzar. Merci.
Merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.